misérables qui vivons dans le confort. On imagine le luxe qu'il avait à se faire pardonner. Claire et Chevalier pleurèrent aussitôt avec émulation devant cet humble aveu d'un prince de l'Église. Et les consciences se sentirent plus tranquilles. Une décision fut prise. Une tentative d'organisation pour lotir le domaine de la pauvreté, c'est-à-dire de délimiter les provinces où chacun se rendrait sur les ordres des supérieurs. Une messe dite par le seigneur cardinal conclut les travaux de ce mémorable rassemblement. Ce chapitre des Nattes est d'une extrême importance pour nous qui cherchons à bien comprendre quel homme fut le Poverello. Il le montre résolu coûte que coûte à lutter pour défendre son idéal contre les puissances de ce monde. D'ailleurs, aussitôt après, par une sorte de coup de tête, il décida de se rendre en Orient. L'Orient. En fut-il surpris ou non, personne ne fit un geste pour le retenir. Mais le vieux pape Honorius tenait fort au succès de cette cinquième croisade où la présence de religieux pouvait agir. Et l'attitude d'Hugolin changeait à l'égard de François. Naguère, il pressait son fils spirituel de rester en Italie à veiller sur ses frères au lieu de gagner la France. Mais il apparaissait depuis que l'homme posait à son insu de graves problèmes. Ce n'était pas qu'Hugolin l'aimât moins ou fût impatienté par ses sorties inattendues. Un esprit de sa qualité passait sur les saintes algarades que François lui faisait subir dans ses moments d'inspiration. On ne reprenait pas un prophète habité par le souffle divin. On s'inclinait, on soupirait sur ses fautes. Tout cela avait été fait. Il n'empêche que demeurait en place, difficile, encombrant, le cas d'une organisation logique de l'ordre tout entier. Mais tant que le fondateur serait là, avec son rêve irréalisable et sa touchante obstination, rien ne pouvait bouger. François, lui, voyait les choses autrement. Comment se fut-il méfié d'Hugolin? Or, ce même prélat l'avait un jour mis en garde contre cette curie, où, cardinal évêque d'Ostie, il trouvait sa place. Mais le Poverello était au-delà de ces considérations. Quitter ses enfants était dur. Le ciel les lui avait confiés. N'était-ce pas une désertion? Seul pouvait le justifier la folie de la croix, jointe à la folie de la croisade. La grande croix, dessinée jadis à la craie sur son vêtement de jardinier, s'était gravée jusque dans son cœur. Se battre, il ne le pouvait ni le voulait. Son but était de convertir les infidèles et tout d'abord le sultan. Espoir suprême, le martyr. C'était le vœu le plus profond. Avant de s'embarquer à Ancône, il remit son autorité entre les mains de deux religieux. Mathieu de Narni, chargé de recevoir les nouveaux venus à la Portioncule, et Grégoire de Naples, savant personnage, trop savant peut-être, qui visiterait les provinces. On pense bien que les frères émus de ce départ n'hésitèrent pas à le suivre en foule. Mais à Ancône, grand embarras. Impossible de prendre tout ce monde. Le moment fut déchirant. Ici, nous retrouvons François tout entier dans la délicatesse de sa charité. « Les gens du bateau refusent de nous prendre tous, dit-il, et je n'ai pas le courage de choisir parmi vous. Vous pourriez croire que je ne vous aime pas tous également. Nous allons essayer de connaître la volonté de Dieu. » Un enfant se trouvait là. François lui demanda de désigner du doigt ceux qui devaient partir, ce qu'il fit comme par jeu. Ainsi, le doigt d'un enfant devenait le doigt de Dieu. Personne n'était blessé, même parmi ceux tout près des larmes. Combien furent désignés? 12, en comptant François. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, patron de François, le navire leva l'ancre et cingla vers la Syrie, s'arrêtant à Chypre. Près d'un mois plus tard, les voyageurs atteignirent Saint-Jean d'Acre où les accueillit le custode de Syrie, frère Élie d'Assise. Surprenantes sont les ruses du destin. François laissait en Italie le démolisseur de rêves qu'était Hugolin pour en rencontrer un autre, que l'avenir allait révéler plus redoutable encore.